Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quand on parle de la fin du monde, c'est souvent la fiction qui l'emporte sur la science. Il y a une infinité de rumeurs, de conspirations, même d'œuvres littéraires qui misent sur le sensationnalisme et la peur, plutôt que d'essayer de se rendre réaliste d'un point de vue scientifique. C'est le cas de L'œil géant de Max Ehrlich, adapté pour la radio par Jean-Luc dans un numéro du roman de la science du 6 mars 1952. Dans ce roman catastrophe, une planète nouvellement formée par l'explosion d'une étoile se dirige à une vitesse vertigineuse vers la Terre, qu'elle est amenée à inéluctablement détruire. Ce n'est pas cette adaptation que nous allons écouter, mais plutôt une émission faite en réaction à cette histoire de Max Ehrlich, qui s'est attiré les foudres des auditeurs et des scientifiques. On retrouve sur le plateau de Jean-Luc les romanciers René Barjavel et Jacques Spitz, le journaliste Georges Gallet, mais surtout l'astrophysicien Jean-Claude Péquer. Ce dernier revient sur l'impossibilité scientifique des événements décrits et répond aux questions envoyées par les auditrices et les auditeurs. Un débat aux confins de la science et de la fiction, donc, reprenant les hypothèses pour la fin du monde, c'est tout de suite, dans une émission réalisée par Pierre Billard et diffusée pour la première fois le 24 avril 1952 sur la chaîne parisienne.
La radiodiffusion française présente Le roman de la science, une émission de Jean-Luc, réalisée avec le concours de Pierre Billard. Aujourd'hui, rendez-vous pour la fin du monde, entretien avec René Barjavel, Georges Gallet, Jacques Spitz, représentant le roman, et représentant la science, Jean-Claude Péquer, chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique.
Nous devons tenir aujourd'hui un engagement que nous avons pris vis-à-vis des auditeurs du roman de la science le 6 mars dernier. En effet, au lieu de faire suivre d'un commentaire scientifique notre émission du 6 mars, intitulée « Les yeux de la planète » et consacrée à l'évocation radiophonique d'une fiction américaine, « Le géant » de Max Ehrlich, nous avons demandé à nos auditeurs de nous écrire pour critiquer, du point de vue scientifique précisément, l'histoire que nous leur avions présentée. Nous avons d'ailleurs soumis ce courrier à un expert incontestable, M. Jean-Claude Péquer, chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique. Jean-Claude Péquer vient de participer à l'expédition scientifique qui a observé en Égypte l'éclipse du 25 février. Et dans la deuxième partie de cette émission, Pierre Billard et Jean-Claude Péquer souligneront la portée des objections majeures formulées par nos auditeurs contre les hypothèses aventureuses de la science fiction américaine. Cet examen nous permettra d'ailleurs, ce qui n'est pas sans intérêt, de voir si la science peut répondre à la question que s'est posée Max Ehrlich après un certain nombre d'autres rêveurs, sommes-nous, nous, c'est-à-dire l'humanité, exposés dès à présent au risque d'une fin du monde, c'est-à-dire de notre monde, la planète Terre, d'origine cosmique? Mais avant de poser cette question à un savant, nous allons, conformément à notre habitude et dans la première partie de l'émission d'aujourd'hui, faire une place à l'imagination. Nous avons pensé qu'il serait amusant de le poser, ce problème de la catastrophe cosmique pratiquement imprévisible, à deux auteurs français spécialistes du merveilleux scientifique, à deux grands romanciers français contemporains. Il s'agit de René Barjavel et de Jacques Spitz, auxquels a bien voulu se joindre l'homme qui, en France, connaît sans doute le mieux et apprécie le plus subtilement la littérature fantastique inspirée par la science, Georges Gallet. Je vais donc demander d'abord à René Barjavel, Georges Gallet et Jacques Spitz, premièrement, s'ils voient et comment ils voient une fin du monde d'origine cosmique? Et deuxièmement, s'ils voient et comment ils en voient les conséquences humaines? En restant bien entendu sur le plan de la pure et libre fantaisie, sur le plan de l'imagination, sur le plan des histoires merveilleuses ou terribles qu'ils ont déjà écrites ou qu'ils pensent écrire maintenant. Mais je me tournerai d'abord vers Georges Gallais, qui, je crois, pourra nous dire si dans l'immense domaine de la science-fiction étrangère, il n'y a pas d'autres livres que Le géant d'Ehrlich qui évoquent ce thème.
Il y a très nombreux livres dans la littérature anglaise, américaine et allemande qui traitent d'une fin du monde venue de l'extérieur ou venue de l'intérieur. Le grand public va d'ailleurs avoir l'occasion de voir une fin du monde de ses yeux, puisque sur les écrans parisiens va passer dans une quinzaine de jours, je crois, un film américain qui raconte une fin du monde par choc planétaire.
Il s'agit pour les hommes, sinon d'échapper en totalité au cataclysme, tout au moins de sauver la civilisation.
Un grand savant a évidemment décidé de sauver un certain nombre de personnes.
Et de valeurs spirituelles.
Et de valeurs spirituelles, d'ailleurs. Il est choisi très soigneusement. Il prend des ingénieurs, des médecins, et toutes sortes de techniciens de toutes les catégories.
Il emmène des femmes, j'espère.
Il emmène des femmes et ça pose même un problème.
La remarque
très
de Jacques
grave. Ça pose un problème biologique pour la constitution de la race sur la planète.
Est-ce qu'il n'y a pas déjà une guerre pour savoir qui va monter dans l'astronef qui doit sauver
les
gens?
Il y a toutes sortes de problèmes qui se posent, évidemment, entre les gens riches qui espèrent pouvoir se payer une place à bord de l'astronef et ceux qui espèrent y trouver une place par leur valeur personnelle.
La question était de René Barjavel, je m'excuse, auprès de Georges Gallais de l'interrompre, mais c'est à Jacques Spitz que nous allons passer la parole maintenant. Parce que je voudrais rappeler qu'il y a eu aussi des romans français sur ce thème, des romans récents, et je crois un roman de Jacques Spitz précisément.
Malheureusement, maintenant épuisé.
Oui, mais justement, je suis un peu embarrassé pour répondre à la question générale que vous posiez tout à l'heure, parce que c'est un sujet qu'en effet j'ai déjà traité dans L'agonie du globe. Dans L'agonie du globe, je supposais que la Terre se coupait en deux. D'un côté, nous avions l'ancien monde et de l'autre côté, le nouveau monde.
Je me rappelle une superbe illustration.
Vous êtes bien aimable. C'était d'autant plus que j'en suis l'auteur.
C'est même la seule fois. Avec un bec de gaz au premier plan.
Et l'une de ces deux parties du monde s'écartaient l'une de l'autre, tout allait bien pendant les premiers temps, mais au bout d'un moment, on s'est aperçu que les deux parties en s'écartant allaient finir par rencontrer l'orbite de la Lune. Et on a cru, à un moment donné, que la Lune allait pouvoir rencontrer l'ancien monde où nous étions. Alors, il y a alors dans le bouquin une description de la fin du monde sur la Terre, avec toutes les conséquences que cela peut présenter, et le pape en particulier donne une confession,
absolution
in articulo mortis à toute l'humanité qui attend l'heure du cataclysme fixée par les astronomes à un moment bien précis. Et il se trouve que ça n'a pas lieu. Mais 5 ou 6 jours après, c'est le nouveau monde qui, lui, se trouve sur le passage dangereux.
Et qui, je crois, réagit
très
par un autre artifice que celui de l'absolution.
Au lieu de recevoir la sainte absolution papale, le nouveau monde, à la grande stupéfaction des terriens qui examinent ça à la lunette avec beaucoup d'intérêt, comme vous le devinez, s'aperçoit que les Américains ont construit des espèces de canons atomiques fantastiques et qui se mettent à bombarder la Lune dans l'intention de la pulvériser avant qu'elle ne les ait pulvérisés eux. Mais enfin, la Lune est tout de même la plus forte, le nouveau monde disparaît, et mon Dieu, eh bien, ça, c'est une solution qui arrange pas mal les choses dans la politique mondiale.
Mais je crois que nous devons maintenant demander à René Barjavel si lui aussi a imaginé des fins du monde d'origine cosmique.
Eh bien, pour ma part, je ne crois pas à une fin du monde d'origine cosmique. Je pense que l'univers est en ordre et que...
Dieu vous entend.
Depuis des milliards d'années que des milliards d'étoiles et avec leurs milliards de planètes qui tournent autour se tiennent chacune tranquillement à leur place, il n'y a pas de raison pour qu'un jour elles se mettent à aller sauter les unes sur les autres. Par contre, si l'on regarde un peu autour de soi, dans l'histoire de l'humanité...
On s'aperçoit que l'humanité est plus turbulente que les corps
célestes. Oui, enfin, dès qu'il y a eu deux hommes...
Dangereuse.
Dès qu'il y a eu deux hommes sur la Terre, il y en a un qui a tué l'autre.
Mais nous avons lu ça quelque part.
Et puis ça continue depuis. Mais alors, depuis la mâchoire d'âne, on a fait des progrès dans les moyens de s'expliquer.
Et en somme, vous craignez, vous, que les hommes ne fassent sauter la planète?
Oui, faire sauter la planète, ils en arriveront peut-être pas là. Mais enfin, ils en arriveront, c'est à craindre. tout au moins exterminer, sinon la race humaine tout entière, sinon l'espèce humaine tout entière, tout au moins peut-être une grande partie, et avec elle toutes les formes de vie sur la Terre. Dans Le Diable l'emporte, j'avais imaginé. Je ne crois pas beaucoup aux explosions atomiques, tout ça, ce sont de gros pétards. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de dégâts, mais quand on aura tué quelques centaines de millions d'hommes, il en restera toujours. Je crois que ce qu'il faut craindre, c'est le jour où nos chers savants, ces braves hommes, ces charmants personnages, mettront au point ce que j'appelle une arme élémentaire. C'est-à-dire quelque chose qui touchera vraiment à un des éléments essentiels à la vie terrestre.
La fin du monde à la portée de la...
Pourriez-vous nous rappeler le rôle joué par cette fameuse goutte d'eau?
Oui,
qui apparaît, je crois, à la fin du Diable l'emporte.
J'imagine, n'est-ce pas, que la troisième ou quatrième ou cinquième guerre mondiale a éclaté, et on en est arrivé au point, les parachutistes chinois sont en train de prendre d'assaut la Suisse, et il y a dans un laboratoire creusé au flanc d'une montagne suisse, un savant qui décide de faire le suicide collectif. Il a mis au point une découverte qui permet de faire geler l'eau à 0 degré, à 40 degrés. C'est-à-dire que à 40 degrés de chaleur, l'eau n'est plus eau, mais l'eau n'est plus liquide, elle est solide. Et bien entendu, non
sans
seulement
faire
à 40 degrés,
la
mais
pression.
Au-dessous. Sans faire intervenir la pression, simplement. Et
c'est de même qu'un cristal plongé dans une solution fait cristalliser toute la solution, tout ainsi une goutte de cette eau
c'est
extraordinaire.
Ça. Et alors il fabrique un flocon de neige à 40 degrés, n'est-ce pas? Et immédiatement, toute l'eau de la Terre se congèle. Et alors, bien entendu, tout meurt, n'est-ce pas? Les plantes éclatent, les animaux sans froid et les animaux à sang chaud sont exactement... sur le même plan, et tout s'arrête, tout meurt, toute vie est détruite simplement par cette congélation de l'eau. Et il n'est pas impossible de penser qu'un savant, un jour, mettra au point une chose semblable. Regardez cette simple bombe au napalm. Vous savez que ce qui rend ses effets absolument terrifiants, c'est qu'elle détruit l'oxygène de l'air dans un périmètre considérable. Et les gens meurent asphyxiés. Eh bien, imaginez qu'on arrive à rendre ça encore plus efficace et qu'on arrive à détruire l'oxygène de l'air ou à la faire absorber par une combinaison chimique quelconque dans un périmètre encore plus considérable. Vous comprenez,
Il est évident que la vie représente un édifice
tellement
compliqué,
fragile,
si fragile,
qu'il
doit y avoir mille méthodes pour y porter atteinte.
Et les hommes sont tellement intelligents.
Ainsi est d'anticipation.
Je crois en tout cas que c'est au niveau de la molécule que les armes les plus vicieuses, si j'ose m'exprimer ainsi, devront agir. Eh bien, nous voilà, je crois, en train d'évoquer une troisième catégorie de fin du monde, se prêtant à des efforts d'imagination, c'est-à-dire une fin du monde qui ne serait pas déclenchée par une catastrophe purement cosmique, par une collision de corps célestes, qui ne serait pas non plus le résultat des ravages, pour citer un titre de Barjavel, déclenché sur l'humanité elle-même, par l'humanité elle-même, mais qui résulterait de l'intervention d'êtres vivants, intelligents, habitants d'autres planètes appartenant au système solaire ou non. Je crois que c'est un thème qui prend de plus en plus d'importance dans la littérature.
Avec les soucoupes volantes, qui ont intéressé le grand public.
Et qu'on est en train de ramener à l'ordre du jour.
Il est assez vraisemblable.
C'est Jacques Spitz qui parle.
Plutôt qu'une fin du monde par rencontre avec un astre arrivant du bout du ciel, la fin du monde, ou la fin de l'espèce humaine, plus exactement, pourrait intervenir par l'arrivée d'êtres venant d'autres planètes.
Déjà l'hypothèse de Wells.
Mais elle a été souvent critiquée du point de vue scientifique parce qu'à cette époque, justement, c'est une chose curieuse, les astronomes prétendaient que les planètes étaient un phénomène tout à fait rare dans l'univers. Eh bien, depuis, on a fait des progrès, si je puis dire, on s'est aperçu que les planètes étaient un phénomène courant. Il est donc vraisemblable, comme il y a des infinités de soleils, qu'il y a des infinités de planètes, et sur ces infinités de planètes, il y en a où on doit rencontrer les conditions d'habitabilité que nous trouvons sur la Terre, ce qui, par conséquent, donnerait à penser qu'il y a d'autres espèces conscientes que l'espèce humaine dans l'univers. Dans ces conditions, ces espèces doivent chercher, comme nous, à aller prospecter un peu l'espace qui leur est offert sur leur tête, et il n'est pas interdit de penser qu'un jour, nous verrions arriver dans notre ciel des soucoupes volantes qui, pour une fois, ne seraient peut-être pas ce serpent de mer actuel, mais qui seraient des vraies soucoupes volantes contenant des êtres qui viendraient reconnaître la Terre et, la trouvant un endroit habitable pour eux, s'empresseraient de nous en chasser, et si nous n'arrivions pas à nous entendre avec eux, ou à être les premiers, c'est-à-dire ceux qui iraient chez eux, pour, en quelque sorte, débarrasser la planète des premiers indésirables.
Il y a d'ailleurs, à l'heure actuelle, un film américain qu'on projette sur les écrans parisiens et qui évoque l'hypothèse policière. C'est « When the Earth Stood Still » qui raconte l'intervention d'une espèce de police interplanétaire venant prévenir les hommes que s'ils ne se tiennent pas tranquilles, ils auront affaire à des forces qui les dépasseront.
Oui, parce qu'il faut aussi prévoir l'hypothèse contraire, c'est que les hommes, enfin d'ici une génération, ils seront allés dans la Lune. Il n'y a pas de doute.
On peut l'espérer.
Oui, ou le redouter, mais enfin, on peut le supposer. Après avoir fait ce premier pas, ils en feront d'autres. Et d'ici quelques centaines de milliers d'années, si
ils iront déclencher des guerres.
Si rien ne les arrête, ils vont commencer à conquérir l'univers, ce qui n'est pas très drôle pour l'univers, il faut bien le dire.
Si on comprend bien, il est à craindre que Jacques Spitz et Barjavel nous invitent nous préparer contre une invention ou à en préparer une ailleurs.
Oui, moi je trouve que les romanciers sont des gens singulièrement pessimistes et que nous aboutissons à des conclusions plus épouvantables les unes que les autres, qu'il s'agisse de catastrophes exogènes ou endogènes, de collisions d'astres ou d'expansion de l'humanité à travers l'univers.
Mais non, mais les romanciers sont des gens doux et bienveillants.
Mais voyons.
Mais les gens terribles qui ont beaucoup plus d'imagination que nous, ce sont malheureusement les savants.
Et une imagination plus dangereuse. Mais néanmoins, on pourrait tirer quelque chose de sérieux de cette conversation de romancier, pour une fois, c'est pas coutume. C'est de penser que si vraiment il y a d'autres espèces conscientes dans l'univers, il y a une espèce de compétition qui s'engage entre ces différentes espèces, et que par conséquent l'humanité, au lieu de perdre son temps sur la Terre, a un but bien défini, qui est de tâcher d'arriver la première dans cette compétition. Car il est très possible que nous perdions notre temps à faire la guerre, à avoir un tas d'activités qui n'ont rien à voir avec cette puissance que nous devons chercher à conquérir sur les choses, pour être encore une fois les premiers, et que ce soit nous et pas les autres qui viennent chez nous. Donc, quand on se demande pourquoi l'humanité travaille, à quoi sert ces heures de travail que nous fournissons tous les jours, sans but apparent que de gagner notre vie, ce qui, si vous voulez, est un premier but, mais n'a pas l'air d'avoir une fin métaphysique, il y en a peut-être une, qui est la nécessité pour l'espèce consciente humaine d'arriver la première dans la compétition universelle et d'être en quelque sorte celle par qui la conscience se répandra dans tout l'univers. C'est un but qui est assez noble, qui a une portée métaphysique et qu'on pourrait donner, si j'étais par exemple dictateur, ce qu'à Dieu ne plaise, comme objectif à l'effort que fournit l'humanité sur la Terre.
J'ai entendu Georges Gallet reprocher aux romanciers français d'être des philosophes avant d'être des inventeurs d'aventures, mais je crois que ce soir, étant donné ce que vient de dire Jacques Spitz, ce serait un reproche mal fondé.
Sont dangereux individus, je comprends bien.
Néanmoins, philosophique que ça, je n'en comprends pas.
Eh bien, je remercie René Barjavel, Georges Gallet et Jacques Spitz d'avoir bien voulu démontrer aux auditeurs du roman de la science la qualité de l'imagination française, qui se mêle de toutes sortes de préoccupations morales et philosophiques que, pour ma part, j'apprécie infiniment.
Une préparation guerrière.
Et comme je l'ai indiqué au début de cette émission, je vais maintenant demander à Jean-Claude Péquer, qui interrogera Pierre Billard, de nous dire ce qu'il pense, lui savant, qui vient d'être malmené par les romanciers, ce qu'il pense des lettres écrites par nos auditeurs au sujet de la fin du monde, évitée de justesse, qu'imagina le romancier américain Max Ehrlich.
Avant de vous interroger sur les auditeurs, je voudrais vous demander, Monsieur Péquer, ce que vous pensez de l'histoire elle-même, de cette histoire qui était tirée du roman de Max Ehrlich, L'œil géant, et que nous avons fait entendre à nos auditeurs il y a quelques semaines. Au regard d'un astronome bien informé, d'un astronome du XXe siècle, quelles sont les invraisemblances majeures de cette histoire ?
Bien dans le détail du scénario, bien des choses étaient à critiquer ou à préciser. Ainsi, l'auteur fait venir une planète d'une supernova.
C'est impossible ?
C'est certainement, en tout cas, très improbable. Car les connaissances que nous avons sur les supernovas ne nous permettent pas de dire actuellement ce qui peut sortir d'une supernova. Une supernova est un astre, c'est une étoile qui devient très brusquement très brillante et qui émet dans l'espace de la matière sous une forme pas très bien connue.
Une sorte d'éclatement.
Une sorte d'éclatement.
Mais cet éclatement est-il un phénomène fréquent ?
Eh bien non. Le phénomène de supernova est au contraire très rare. Dans notre galaxie, qui groupe l'immense majorité des étoiles observables, il se produit en moyenne une fois tous les 500 ans, ce qui est évidemment très peu.
C'est-à-dire que Depuis que l'astronomie existe, on n'a pas dû en observer beaucoup.
On n'en a pas observé beaucoup dans notre galaxie. Il n'y a donc aucune raison pour que ce phénomène se produise au voisinage de notre Soleil. Et s'il se produit, on ne voit pas pourquoi une planète serait éjectée dans l'espace. Même si l'accident arrive à l'étoile la plus proche de nous, qui se trouve à déjà 4 années-lumière, et même si la planète se dirigeait vers notre globe à une vitesse de 100 km par seconde, elle mettrait plusieurs siècles pour arriver, et par suite, aucune supernova aussi proche n'ayant été observée depuis des siècles, si ce phénomène arrivait dans l'avenir, il ne concernerait pas des hommes de notre génération ou de 1962, mais ce serait une échelle de temps très différente.
Rien à craindre de ce côté-là, tout au moins pour l'immédiat. Avez-vous remarqué d'autres invraisemblances ?
Bien entendu. Cette planète, n'est-ce pas, qui comme toutes les planètes n'a pas de lumière propre, ne peut commencer à être visible que lorsqu'elle est éclairée par le Soleil.
Bien entendu.
C'est-à-dire lorsqu'elle arrivera aux confins du système solaire. C'est-à-dire au voisinage de la planète Pluton. L'observation du professeur Dawson concerne donc une planète qui est déjà arrivée au voisinage du système solaire. Elle commence alors à réfléchir la lumière du Soleil, ce qui permet de la photographier.
Et combien de temps lui faudrait-il pour parvenir jusqu'à la Terre ?
Eh bien, d'après le professeur Dawson, elle mettra 2 ans à venir.
Est-ce que c'est vraisemblable ?
Ça correspond à une vitesse d'environ 100 km par seconde, et cela n'a rien d'exagéré.
Tant mieux. Bravo pour Max Ehrlich.
Mais là où l'impossibilité est criante, c'est dans les manifestations de cette étonnante visiteuse. Aucune planète n'a jamais entraîné sur la Terre aucun séisme, aucune perturbation radioélectrique, aucune fissure. Seule la Lune ou le Soleil, qui sont soit proches, soit très gros, produisent des marées. D'autre part, cette planète est si grande qu'on peut observer sans instrument l'œil que forment les dessins de sa surface dès 1 an avant la catastrophe prévue, c'est-à-dire quand elle est encore 2 fois plus loin que la planète Jupiter.
C'est en effet ce que raconte Ehrlich.
Si on admet que des détails sont discernables à l'œil nu, si le diamètre apparent est environ 1/10 de celui du Soleil, cette planète devrait être plus grosse que le Soleil, soit au moins 1000 fois plus que la plus grosse planète qui est Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, ce qui est extrêmement improbable. De plus, comme bien des auditeurs l'ont remarqué, par exemple le docteur Russo, il est bien étrange de voir toujours la même face de cette planète. Ce qui est vrai pour la Lune ne l'est qu'en raison de l'action de la Terre sur les mouvements de la Lune, n'est-ce pas ? La Lune nous présente toujours la même face, parce que la Terre a freiné son mouvement. Enfin, quand la planète s'approche jusqu'à frôler la Terre, si cette planète est aussi grande, ses effets doivent être bien plus considérables que ceux que l'indique Ehrlich. En fait, le frôlement lui-même serait une catastrophe, aussi grande que le choc.
Oui, on pourrait imaginer tous les séismes que provoquerait à proximité de la Terre la présence d'une planète de dimension considérable.
Ça pourrait faire une suite au roman d'Ehrlich, mais pas moins invraisemblable. Je voudrais signaler également une erreur d'ordre psychologique. C'est pas le calcul de la trajectoire d'un astre à partir des observations est un problème qui est résolu depuis des siècles. Ce n'est nullement un secret. De nombreux astronomes, des étudiants même, savent calculer une trajectoire de comète à partir des observations. Il est donc très improbable que l'erreur volontaire ne soit pas apparue aussitôt, puisqu'elle n'est concertée qu'entre les plus grands astronomes du monde réunis par le professeur Dawson dans le roman d'Ehrlich.
Un tel complot des astronomes était donc impossible.
En effet. Ce qui est par contre très vrai, c'est que les astronomes, qui se réunissent régulièrement au sein d'une union astronomique internationale, qui groupant la plupart des nations, y compris les USA et l'URSS, désirent profondément la paix, et y contribuent, par leurs travaux et par une collaboration internationale continue. Mais je veux croire que les hommes, tous, n'ont besoin des astronomes ni pour vouloir la paix, ni pour la maintenir.
Nous ne demandons qu'à en être persuadés. Mais pour en revenir aux lettres des auditeurs, avez-vous retrouvé certains de vos arguments dans les réponses qui nous ont été fournies ?
Eh bien, j'ai été très agréablement surpris par le bon sens dont font preuve la majorité des auditeurs.
Des auditeurs n'a pas cru à la fin du monde ?
Non, pas du tout. Bien entendu, il y a certaines erreurs qui sont imputables à l'ignorance de certains faits astronomiques. Je voudrais par exemple citer M. Lacouture, qui par ailleurs a fait une très bonne réponse, qui parle de l'observation de la supernova et qui dit que cette supernova devrait être visible à l'œil nu. Bien entendu, si elle est très proche de nous, elle doit être visible à l'œil nu. Mais le phénomène observé par le professeur Dawson n'est pas l'éclatement de la supernova, c'est l'arrivée de la planète. Et entre les deux phénomènes, il se produit des siècles, peut-être même des millénaires. Par conséquent, il y a là une petite erreur. La planète n'aurait pas pu être d'ailleurs visible avant d'arriver aux confins du système solaire. Mais évidemment, il y a d'autres très bonnes réponses. J'ai déjà cité le docteur Russo, qui a très bien vu que la planète ne peut pas présenter toujours la même face à la Terre. Je voudrais citer aussi la réponse de M. Bouchery,
qui... L'instituteur.
Oui, exactement, qui nous dit « Je ne savais pas que des planètes résultaient de l'éclatement des supernovas. » Des supernovées, pardon. Eh bien, je ne le savais pas non plus. Et je crois qu'il y a beaucoup d'astronomes qui ne le savent pas plus que moi.
Et M. Bouchery avait bien raison de ne pas le savoir.
En effet. Par conséquent, je pense que qu'on peut retenir un certain nombre d'auditeurs qui ont fait de très bonnes réponses.
Pourriez-vous nous les nommer ?
Eh bien, je vais vous en nommer 6, par exemple, les 6 meilleures réponses. Le docteur Russo, de Saint-Bonnet-de-Joux, en Saône-et-Loire. M. Massot, de Rognac, dans les Bouches-du-Rhône. M. Patton, de Fécamp. M. Lacouture, de Saint-Laurent-d'Aunis. M. Bouchery, à Mouneur, Lot-et-Garonne. Et M. Carrier, à Nîmes-Gare, qui a joint à sa lettre un splendide dessin d'une nébuleuse représentant assez bien, effectivement, un œil géant.
Tous ces auditeurs recevront bientôt de nos nouvelles.
Je m'excuse d'intervenir dans le débat, mais je voudrais poser à M. Pecker la question que j'ai posée aux romanciers réunis tout à l'heure autour de ce micro. Ils nous ont donné le point de vue de l'imagination. J'aimerais avoir celui de la science. Croyez-vous, M. Pecker, que nous soyons exposés à une fin du monde, de notre monde, d'origine cosmique ?
En toute honnêteté, je ne le crois pas. Évidemment, on ne peut pas affirmer en toute rigueur qu'il soit impossible qu'une planète soit lancée dans l'espace par un phénomène lointain et plus ou moins bien connu. Il n'est pas en toute rigueur impossible que cette planète se dirige droit vers le système solaire, qu'elle y coupe l'orbite terrestre, que la Terre se trouve à ce moment-là au point de l'orbite où passe la planète. Mais ce sont autant de faits dont la probabilité est très faible.
Y a-t-il d'autres dangers ? Par exemple, l'humanité a eu très peur des comètes pendant très longtemps.
En effet.
Que l'astronomie justifie actuellement cette crainte séculaire ?
Eh bien, on a longtemps cru que les comètes étaient des astres terribles. Il semble actuellement qu'il n'y ait rien à redouter de ce côté-là. Les comètes sont des astres très légers qui, d'ailleurs, appartiennent au système solaire. En tout cas, on n'a jamais mis en évidence de comètes venant d'ailleurs. Et nous en rencontrons constamment. Il y a constamment dans notre ciel de nouvelles comètes, plusieurs par année, qui sont découvertes.
Mais n'y a-t-il pas un danger cosmique résultant de la chute des météores, des météorites qui s'abattent sur la Terre ?
Qui peuvent être de grosses dimensions.
Il y a très souvent des météorites énormes qui tombent sur la Terre. Par exemple, tout récemment, il y a quelques années, un immense météorite de plusieurs tonnes est tombé en Sibérie. Et cette chute a produit des perturbations qui ont été enregistrées dans les sismographes dans tous les pays du monde.
On a même créé une explosion atomique, je crois.
Mais oui.
Mais revenons-en à l'improbabilité de la fin du monde, qui me paraît être l'essentiel de votre réponse.
Eh bien, vous savez que pour les physiciens, des probabilités très faibles équivalent à une impossibilité. Cette idée a été illustrée par le mathématicien Émile Borel, il y a quelques années, qui a imaginé le miracle des singes dactylographes. Voici ce miracle, n'est-ce pas ? Si une armée de singes envahit une fabrique de machines à écrire et tape au hasard sur les touches, il n'est pas rigoureusement impossible qu'ils reconstituent les volumes de la Bibliothèque nationale dans leur intégralité. Mais en fait, on comprend bien qu'un tel événement est tellement improbable qu'il est impossible. Je ne pense pas par suite que le phénomène évoqué par Ehrlich soit beaucoup plus probable ou possible que le miracle des singes dactylographes.
Après avoir remercié Jean-Claude Pecker, non seulement pour les précisions qu'il nous a données, mais encore pour une conclusion plus optimiste que celle des romanciers, je tiens à féliciter à mon tour les auteurs des 6 lettres citées. Grâce à l'obligeance de messieurs Gruenet et Pilotin, chacun des 6 lauréats de notre petit concours recevra d'ailleurs un des derniers romans parascientifiques édités dans la collection du Rayon Fantastique. Je tiens enfin indiquer à ceux de nos auditeurs que passionne l'astronomie qu'à partir du 8 mai, notre émission du 1er mai étant supprimée, nous entreprendrons une sorte de voyage radiophonique à travers le système solaire et du même coup, à travers l'astronomie contemporaine. Notre première escale sera bien entendu notre satellite, dans lequel nous nous transporterons en évoquant d'abord le chef-d'œuvre de Wells, Les premiers hommes dans la Lune.
La radiodiffusion française vous a présenté Le roman de la science, une émission de Jean-Luc, réalisée avec le concours de Pierre Billard. Aujourd'hui, rendez-vous pour la fin du monde, entretien avec René Barjavel, Georges Gallet, Jacques Spitz, représentant le roman, et représentant la science, Jean-Claude Pecker, chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique.
C'était Rendez-vous pour la fin du monde, l'hypothèse de la catastrophe cosmique, un numéro du roman de la science de Jean-Luc, diffusé pour la première fois le 24 avril 1952 sur la chaîne parisienne.